émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur m'aime, comme un souffert, le Seigneur m'aime, il est amoureux. Je veux dire que je le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amoureux.
La bonne nouvelle chantée par les anges au-dessus des collines de Bethléem, dans la nuit où naquit le Sauveur du monde, n'était que le commencement de la manifestation de cet évangile de gloire, de paix et de salut. Cette bonne nouvelle, car c'est là la signification du mot évangile, fut plus amplement révélée dans le ministère public du Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et les affligés, apportant le réconfort et l'espoir aux opprimés, et prêchant la venue prochaine de son royaume. Repentez-vous, disait-il, car le royaume de Dieu est proche. Mais il faut dire que tout le bien qu'il fit et qu'il dit n'aurait-il qu'un effet limité s'il avait laissé les hommes dans leur péché. Le message de Jésus de Nazareth n'aurait eu aucune importance pour notre époque, aucune portée, s'il ne proclamait pas la grâce et le pardon de Dieu. C'est essentiellement dans cette caractéristique du message de Jésus que réside la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle là où le pardon des péchés n'est pas proclamé. Le message du Christ ne vise pas essentiellement l'amélioration de la condition matérielle des hommes. Ce n'est pas l'homme extérieur qui importe, c'est l'homme intérieur. L'extérieur n'est qu'une apparence souvent trompeuse, le besoin est à l'intérieur. C'est là que le mal s'enracine. L'évangile du Christ n'est donc pas un évangile strictement social, comme certains aiment à le croire. Il dépasse infiniment les limites étroites de notre vie terrestre. Sa raison d'être, c'est le péché. Sa mission, c'est la conversion ou la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est la rémission des péchés. Celui qui n'a pas compris cela n'a pas compris l'Évangile. De toute évidence, il n'a pas lu la Bible. Ou ce qui est pire, il l'a mal lu. La révélation de la bonne nouvelle atteint son point culminant dans la mort de Christ et dans sa résurrection triomphale. Les prophéties, particulièrement celle d'Ésaïe, annonce clairement un Messie souffrant et prenant sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aussi Paul s'indigne-t-il contre ceux qui n'entrevoient l'utilité du Christ dans cette vie et pour cette vie. Il s'exclame avec véhémence, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Bien sûr, nous n'ignorons pas le fait que le christianisme a exercé une énorme influence dans le monde des hommes, apportant une amélioration considérable dans la société humaine. Hôpitaux, asiles, institutions diverses se sont ouverts, continuant l'œuvre du Christ qui était l'ami des pauvres, des malades et des misérables. C'est le christianisme qui a restauré les principes éternels de justice et d'égalité de droit de tous les hommes. Il faut noter d'ailleurs que les conditions de vie sont toujours meilleures dans les pays du monde où l'Évangile s'est répandu le plus librement. Mais ce sont là, dirons-nous, des sous-produits de la puissance évangélique. Les Écritures expliquent clairement que le but essentiel de l'Évangile n'est pas l'amélioration du sort de l'homme sur la terre, mais bien qu'il porte indirectement et logiquement ce fruit. La raison d'être de l'Évangile, nous le répétons avec l'Écriture, c'est de sauver les hommes du péché, et de les préparer à accueillir la mort comme une porte qui s'ouvrira sur une éternelle communion avec Dieu. Le défaut grave d'un certain évangile social, c'est qu'il veut ignorer cette caractéristique essentielle du message chrétien, lui préférant son aspect matériellement et temporellement avantageux. Et là, il est vrai l'avantage d'être plus attrayant. Il convient mieux à la mentalité moderne, parce qu'il se conforme à elle. Mais c'est un faux évangile. L'évangile social ne se préoccupe virtuellement que du temps présent. L'évangile du Christ nous ouvre des horizons sans cesse, moins immédiats, mais plus vrais. C'est précisément ce que rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, lorsqu'il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les apôtres de l'évangile social considèrent le péché comme n'étant qu'un symptôme du désordre social, mais les apôtres de Jésus-Christ dénonçaient le péché comme la cause même de ce désordre et de toutes les misères auxquelles est assujettie la race humaine. Dans l'évangile social, le Christ n'est qu'un martyr. Pour les chrétiens, cette mort est la condition même de leur vie. C'est par ces meurtres et sûrs que nous sommes guéris, avait déjà annoncé le prophète. Il est notre rançon, le prix de notre liberté et de notre salut. Ainsi, nous voyons qu'il est possible de s'écarter considérablement de l'évangile tout en gardant une apparence évangélique. Mais que reste-t-il de cet évangile lorsqu'on en a éliminé le caractère divin, pour ne pas dire miraculeux, jusqu'à la résurrection du Christ? C'est bien là ce que fait ce prétendu évangile social. Dans un effort d'adapter l'évangile à la mentalité moderne, les hommes ont abouti à une caricature lamentable. Ou bien on accepte le message du Christ tel qu'il nous l'a livré, ou bien on le rejette. Il ne peut y avoir de compromis. Les doctrines humaines à base d'évangile ne sont que des doctrines humaines et ne seront jamais que cela. Jésus lui-même souligne fermement quelle doit être notre attitude vis-à-vis de son message. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Les paroles de Jésus n'ont pas toujours été douces à entendre. Il y a dans l'évangile des accents de colère et d'indignation, de mise en garde sévère et définitive qui commandent le respect et la crainte. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a constamment souligné dans ses enseignements les besoins spirituels de l'homme en accordant à ceux-ci une plus grande importance qu'à leurs besoins matériels, c'est-à-dire au manger, au boire et aux vêtements. L'épisode de la multiplication des pains lui fournit une autre occasion d'insister sur ce thème vital si vite oublié par les hommes. Travaillez, exhorte-t-il, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Voilà le véritable esprit de l'Évangile, révélant les véritables besoins de l'homme. Cette révélation est aussi précieuse, aussi providentielle que les diagnostics d'un médecin qui ne découvre une maladie grave que nous ne soupçonnions même pas. En même temps, il en propose le remède qui peut être appliqué à temps. Serons-nous assez fous pour négliger et le diagnostic et le remède? L'évangile du Christ, dit l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car en lui est révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu pour rendre les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Le pardon des péchés par le sang de Christ, la justification par la foi en Christ, la sanctification par l'Esprit du Christ, la glorification avec le Christ dans le siècle à venir, ce sont là les grands thèmes de l'Évangile. L'apôtre Pierre les résume au début de sa première épître. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Pour l'apôtre Pierre, l'Évangile est tellement vrai, l'espérance qu'il donne est tellement grande qu'on peut lui donner notre adhésion totale, joyeuse, corps et âme et esprit, en dépit des épreuves et des souffrances qu'une telle adhésion peut amener. C'est là ce qui fait votre joie, écrit-il. Quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ne confondons pas l'évangile du Christ avec cet évangile social et intellectuel que les hommes ont fabriqué. Ne personne. Gardons-nous, comme trop de gens inconstants et désorientés, de nous mettre à la remorque de tel ou tel système sous prétexte qu'il a des résonances chrétiennes. Pourquoi nous contenter des échos? Allons directement à la parole elle-même, qui est et qui sera toujours la lumière de chaque homme, le seul espoir du monde. On parle trop ou trop peu des chrétiens. Trop car tout le monde se croit chrétien parce que, à la naissance, on lui a collé une étiquette dans le dos, et pas assez de véritables chrétiens, disciples de Jésus-Christ, qui s'efforcent de faire sa volonté à tout prix et tentent de partager leur foi avec les autres. Seulement voilà. Le monde religieux est déchiré, morcelé, divisé, et personne n'ose s'aventurer de peur de tomber dans le chausse-trap des sectes, du fanatisme ou de l'exploitation. Que faire? Où aller? À qui se confier? Avez-vous jamais songé à repartir à zéro, à retourner aux origines, la Bible? Croyez-moi, la réponse est là, dans toute son originalité, dans toute sa limpide simplicité. Peut-être passez-vous à côté de la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la parole de Dieu dans tout ce qu'elle comporte de direct, de pur, de compréhensible à tous. C'est cela l'important. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure. Le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire.